Et tout de suite sur France Inter, Utopie Cabrac. Bonsoir Laurence Garcia.
Bien dit, merci Marie-Pierre Planchon, on vous retrouve demain. Et oui, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a l'utopie.
Oui.
Et le rêve, ça peut même nous aider. En plus, vous ne raterez même pas le match. Selon la police espérantiste, il serait 3 millions sur la planète. Selon les organisateurs espérantistes, il serait 10 millions. Bon, malgré ce petit écart de chiffres, l'espéranto fait la résistance et connaît même une seconde jeunesse grâce à Internet. Moins d'un siècle après son invention, le rêve est intact. Une langue internationale, neutre et fraternelle. La langue de personne et donc de tout le monde pour mieux communiquer et se comprendre. Alors, l'espéranto, utopie qui vivote dans l'attente du grand soir. Allez, score final. 3-1 pour les espérantistes.
Utopie Cabrac. Laurence Garcia.
Bonjour Bruno Robineau.
Bonjour.
Bonjour Christian Garino.
Bonjour.
On dit d'ailleurs espérantiste ou espérantophone?
On peut dire les deux. Espérantiste, je dirais, c'est celui qui a, qui connaît un peu l'ensemble des concepts qui soutiennent finalement cette philosophie. On peut dire que c'est un peu une philosophie d'une certaine façon. Et une philosophie humaniste. Tout simplement d'une langue qui a pour but que les hommes puissent se comprendre un peu partout sur la planète, une seconde langue neutre. Espérantophone, c'est tout simplement celui qui parle l'espéranto. L'espérantiste parle aussi l'espéranto, mais depuis quelques années, il y a une évolution vers, vers le mot espérantophone.
Alors, une langue, une philosophie, on va avoir vraiment le temps d'en parler ce soir, mais honnêtement, question très bête. Est-ce qu'un espérantiste qui est quand même au-delà des nations, d'une logique nationaliste, mais au contraire dans une langue d'union, regarde le foot? Christian Garino.
Bien sûr, il ne va pas se priver de ça, on ne va pas quand même faire de polémique sur le sujet, même si on n'est pas tous obligés d'être adeptes. Disons que nous, on a l'impression aussi de jouer en équipe, mais pas tout à fait sur le même terrain. Nous, on est sur une sphère très grande.
Et donc, vous êtes pour les Portugais, bien sûr.
Disons qu'on essaie d'être contre personne, en fait. C'est ça la différence. C'est que nous, on est tous partenaires, on n'a pas d'adversaire.
Et la vraie utopie, ce serait finalement un championnat du monde de footballeurs espérantistes, sans nation, sans porte-drapeau.
Ouais, on devrait inventer un jeu où on s'entraide mutuellement plutôt qu'on essaye de rivaliser pour finalement des objectifs de compétition un petit peu dépassés peut-être, à un moment où quand même la planète a d'autres soucis.
Alors vous n'êtes pas qu'espérantiste dans la vie, Christian Garino. Alors vous, après Sarko, après Sego, il y a donc Garino, puisque vous vous présentez pour les présidentielles en 2007. Bon là, on est dans la grosse utopie.
Ouais, c'est beaucoup d'honneur. Enfin, je sais pas si c'est un honneur, mais en tout cas, disons que l'objectif, c'est de figurer, comme on dit.
Et de faire avancer la cause de l'espérantisme.
Ben ouais, c'est ça, parce qu'il va falloir aller à la quête des signatures, et ça, c'est quand même une autre partie. Mais quand même, c'est bien de pouvoir, grâce à ce contexte des élections, amener un débat qui, autrement, n'a pas lieu, malheureusement.
Une tribune.
Une tribune, ouais.
Et pourquoi pas imaginer une langue européenne, on en reparlera. Bruno Robineau, paysan, globetrotteur, voyageur. Vous, l'espéranto, c'est vraiment la langue du voyage et de la rencontre avec les paysans de la planète?
Alors, c'était la langue... je parle plusieurs langues, et bien évidemment, on ne peut pas faire autrement que parler l'anglais, entre autres. Mais je me suis rendu compte, entre autres, que l'anglais me menait souvent. J'étais avec des gens qui ne parlaient pas suffisamment bien, et bon... C'était difficile. Alors on a appris l'espéranto en cours de route. On l'a appris en Bulgarie pendant 35 jours d'études. Et après 35 jours d'études, je me débrouillais très bien.
Pour un tour du monde qui a duré 8 ans.
Oui, 8 ans et demi, oui, sur les routes et surtout dans les champs du monde.
Avec femmes et enfants.
Oui.
Comment on dit bonsoir et bienvenue sur France Inter en espéranto? Allez-y.
Dans Bonvenon.
Bonan vesperon.
Bonan,
saluton.
Et Utopie Cabrac en espéranto?
Utopio.
Utopio. Allez, bienvenue, c'est Utopio. Il est 20h16 sur Inter. Christian Garino, Bruno Robineau, deux représentants donc de la République internationale des espérantistes.
Ouais, c'est ça, hein.
Alors, le fameux docteur Zamenhof, I have a dream, c'était en 1917, son rêve.
Ah, c'était en 1887.
Ah, oula !
En 1917, il est mort, le pauvre.
Ah.
Et il est mort juste après être arrivé à Paris. Enfin, il n'a pas pu venir. En 1914, devait se tenir à Paris un grand congrès mondial très significatif. Et ça a été vraiment à la veille de la guerre de 14, la veille de l'annonce de la guerre. Les médailles et tout la médiatisation avaient été préparées. Et Zamenhof a été retenu en Allemagne. Il n'a pas pu arriver. Et ça lui a donné un coup moral, je crois, vraiment très fort. Oui. Et il est mort en 1917.
Et quelque part, vous avez l'impression, l'un et l'autre, d'être des héritiers, des résistants de cette histoire-là?
On est quand même héritiers de tout le mouvement humaniste depuis que les humains sont des humains, quelque part.
Mouvement humaniste, donc ouais, l'espéranto s'inscrit dans une philosophie humaniste.
Ah, tout à fait.
Et toujours encore, plus que jamais.
Ah oui. Personnellement, je me sens tout à fait, en fait, l'héritier de Zamenhof, en ce sens où Zamenhof a foncièrement contribué à une meilleure intercompréhension entre les peuples, et ça a été le but de sa vie. Et moi, quand j'ai connu, en fait, l'espéranto, tout de suite, au bout de 20 minutes que j'ai entendu parler, en fait, de l'espéranto et qu'on me l'a présenté, j'ai dit, voilà un homme qui a vu juste, eh bien, j'apprendrai la langue. Je me sens foncièrement, en fait, reconnaissant. Je me sens foncièrement reconnaissant, en fait, du fait que... que Zamenhof un jour est venu sur la Terre et a quelque part a initié un mouvement, donc je me sens un peu dans cette lignée.
Vous pensez en espéranto?
Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Enfin, moi, personnellement, je peux vous dire, j'ai appris l'espéranto en 35 jours d'études.
Hein. 35 jours.
35 jours. Si vous voulez, je peux vous le dire en espéranto, je vous traduirai très rapidement. Donc, mi facte lernis la lingvon dum tridek vintagoj en Bulgario kun mia edzino dum nia mon voyaĝo. Donc j'ai appris vraiment l'espéranto en 35 jours.
Voyage, ça veut dire voyage.
Pendant mon tour du monde en Bulgarie, et je faisais donc kaj mi lernis dum naŭ horoj ĉiutage, kaj post ĉi tiu post du semajnoj mi ja sonĝis en Esperanto, mi vere sonĝis en Esperanto. Je veux dire, après une étude de deux semaines à raison de 9 heures par jour, je rêvais vraiment dans la langue. Donc je pense dans la langue quand je suis dans un contexte espérantophone.
Alors, on parle d'une langue qui n'est pas élitaire, et justement, dans son apprentissage, c'est facile. Il paraît que c'est une langue très facile à apprendre. Comment vous pouvez m'expliquer un petit peu si c'est une langue technique Lego, construction, sa base est latine?
Ouais, l'idée du Lego est quand même pas mal. Bon, Zamenhof avait une culture linguistique très forte. C'est un enfant très sensible, c'est sûr, parce qu'il a pensé sa langue étant enfant. Il était d'un milieu où les études linguistiques se faisaient. Il a été marqué par...
Il
était polonais, juif polonais d'origine, dans une Pologne qui était occupée par les Russes, donc sous domination linguistique russe, avec un certain nombre de communautés nationales diverses, des gens qui ne se comprenaient pas, puisqu'on ne va pas à l'école, on n'apprend pas les langues à cette époque-là. Et lui a souffert de cette situation, alors que lui voyait ce qui se passait par sa formation. Et je pense que certainement c'était aussi un être génie, comme on a eu un Mozart qui composait à 8 ans. On sait qu'il a pensé sa langue à 6-7 ans, qu'il en a posé les bases vers 10-11 ans, qu'il a finalisé une première réalisation vers l'âge de 14-15 ans, qu'il a expérimenté au collège et au lycée. Et ce n'est qu'à l'âge de 26 ans, après avoir passé des diplômes de médecine, qu'il a vraiment formalisé ce qui va être le premier prototype espéranto.
Alors justement, pour revenir ensuite à la technique linguistique de l'espéranto, figurez-vous que dans notre équipe, Amandine Casadamon a pris quelques cours d'espéranto avec un professeur dans le 4e arrondissement. On l'écoute.
Yes, bonnet.
Tu bicycli, yes, naturally.
Mi parolas ĉiujn lingvojn, sed neniun mi konas. Kiu mi estas?
Esperantisto.
¿Cómo puede ser eso?
Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
En Esperanto, por favor, me dio en Esperanto.
Dum li atendas sur la kajo, li pensas pri la mirinde bela ekskurso organizita de Henriko. Subite, li ekaŭdas malantaŭ si. Saluton, samideano. Mi nomiĝas John.
Bone. Kiel la policano esperas retrovi Gerdan? Rassurante.
Marco diras ke li perdis lian tason.
Bone. La tsartumi, faire le lézard. Sunumi, bronzer au soleil. Plenumi, c'est remplir une tâche. Serbumi, se creuser la cervelle. Alors, Kismo, on le retrouve aussi en français. En fait, c'est pour parler d'une doctrine, d'une façon d'agir, de penser. Christianismo, christianisme. Anglismo, anglicisme. Alcoolismo, alcoolisme. Il y a énormément de musique. Il y a vraiment tous les styles en espéranto. Ça peut être... c'est vraiment très, très...
Appartenis à la skip del medus flosso tiu ship famigu tion en haven en chiu haven navigis gi sen avatar viete sur la granda mar nomigis tui la companar la fluctuat nec mergitur nestis por gi literatur malplacu al la perfidu tiu perfidur. Matrosoi cae la capitan ne estis fiat sulla clan, sed vera samideanar. Inclinis ili ne al lux, nec estis Castor cae Pollux, nec el Sodom cae Gomor. Ne similets al simpati inter monten cae poesi, nura musigio ien la far de la compana.
Les copains d'abord, Brassens version espéranto. Alors si j'ai bien compris, les racines sont toujours les mêmes alors dans l'espéranto, Christian Garino.
Ben, disons que Zamenhof a été très pragmatique. Hein. Il a travaillé à la fois sur un lexique qui était le fond finalement indo-européen de ces derniers milliers d'années. Il a pris les racines les plus communes. Donc on retrouve une grande partie de gréco-latin, une partie de germanique, une partie de slave. Et il a travaillé également sur la syntaxe, et il a travaillé également sur la conception de la langue elle-même qui s'articule à partir de racines invariantes.
Ça, par c'est exemple, vous pouvez me donner un exemple?
Je ne sais pas, on peut prendre le verbe parler, par exemple.
Parler.
Parole. Bon, on a le mot parole. Donc parole, P-A-R-O-L, simple, ne veut rien dire. Si on lui... Enfin, il a le sens de parole, mais il n'a pas encore d'identité. Il est nu, on va dire. Ensuite, il donne des désinences. Bon, là, il y a des termes grammaticaux plus ou moins complexes, mais il donne une finale. Par exemple, le « i » va marquer l'infinitif. Et la règle va être 100% régulière. Donc, tous les noms, tous les mots se terminant par « i » vont être des infinitifs, sauf deux, trois exceptions, mais qui ne sont pas significatives et qui ne portent pas de difficultés. Donc, elles vont être reconnaissables à l'oreille et à l'écriture.
D'accord.
Si on met un O, on aura le substantif, c'est-à-dire le nom. Donc, parole, O, va devenir la parole.
D'accord.
Hein? Et si on trouve le A, par exemple, ça va être l'adjectif. Donc, on a des concepts très délimités. Donc, les mots peuvent être appris, je dirais, automatiquement.
Alors, on l'apprend simplement. Combien de temps?
En moyenne, il y a eu des expériences qui ont été faites dans des instituts spécialisés de propédeutique, hein, d'apprentissage, etc. En moyenne, c'est 7 à 10 fois. Ça dépend quelle est la langue de départ. Ça dépend, bon, bien sûr, quelle est la
langue. Et vous, d'ailleurs, en parlant de langue de départ, votre langue maternelle, c'est donc le français.
Oui, bien sûr.
Alors, cette langue-là, l'espéranto, pour vous, c'est quoi? C'est la seconde langue maternelle? C'est...
De cœur, c'est
Christian,
certain.
La langue de cœur,
c'est certain. Parce que moi, j'ai fait anglais-allemand, du latin, bien sûr, en langue morte. Mais c'est la langue de cœur, c'est sûr. Et moi, je l'ai appris en autodidacte.
Et langue morte. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'espéranto est une langue morte.
Oui, mais beaucoup de gens parlent sans savoir. Et quand même, la moindre des politesses, c'est de se renseigner avant de parler.
Alors, les chiffres, combien d'espérantistes y a-t-il? Alors, en France, alors dans le monde, oui, alors il y a certains qui disent 3 millions, d'autres 10 millions sur la planète. En France, il y a combien d'espérantistes?
Moi, j'ai l'habitude de répondre, combien y a-t-il d'Allemands qui parlent français en France? C'est inchiffrable, il faudrait définir un niveau, il faudrait...
Bon, parler bien.
Bon, ce que je réponds, c'est que il y a beaucoup de gens qui passent par l'espéranto. Ça, c'est sûr. Il y en a énormément. Mais beaucoup ne restent pas parce que dans la société actuelle, ça reste difficile d'être espérantiste ou espérantophone.
Et pourquoi?
Parce qu'il y a une sorte de tabou sur cette langue, il y a une sorte de déni, parce qu'il y a un dogme du tout anglais, tout le monde le sait, c'est comme ça, c'est la loi de la puissance économique. Le français d'ailleurs a régné en maître pendant très longtemps, et d'ailleurs c'est le français... Le gouvernement français lui-même qui a fait obstacle à l'émergence de l'espéranto historiquement, puisqu'il y a eu une volonté de l'amener à la Société des Nations en 1921. Et il y a eu c'était un secrétaire japonais à l'époque qui avait fait une étude avec un certain nombre de gens, et il l'a amené en séance plénière. Et c'est la France qui a fait, je ne rentre pas dans le détail, c'est tout à fait cocasse, mais c'est la France qui a fait obstruction. Parce qu'à l'époque, elle était langue dominante. Les anglo-saxons eux-mêmes n'avaient pas encore émergé comme ils le sont aujourd'hui.
Et là, ce n'est pas la langue de tous les pouvoirs, quoi.
Non, c'est la langue du partage, c'est certain. C'est la langue de la liberté parce que beaucoup plus de gens peuvent l'apprendre. C'est aussi une langue démocratique parce qu'elle coûte beaucoup moins cher à enseigner. Son intelligence, je dirais, de construction à part des systèmes d'affixes avec des repères sémantiques, donc de sens qui sont précis, invariants, etc., fait que l'intelligence est libérée par l'usage de cette langue. Et encore une fois, son plus grand atout étant qu'elle ne menace personne directement. Elle n'est pas là, elle n'est pas glottophage, elle ne cherche à manger aucune autre langue. Mais par contre, elle interpelle les individus sur les habitudes qu'il y a justement à des relations de force, à la compétition et à la concurrence, qui est la loi du marché, dit-on, mais on sait qu'est une loi sans pitié. Et nous ne nous situons pas sur ce registre, nous sommes des humanistes et nous prétendons défendre d'autres principes. Voilà.
Et nous parlerons aussi avec vous, Bruno Robineau, tout à l'heure, de cette langue du voyage pour faire ce tour du monde, ou des hommes, comme le dites si joliment, pendant 8 ans, puisque l'espéranto, c'est aussi un réseau d'entraide avec les espérantistes du monde entier, pour voyager mieux. Lève-tôt, rêveur, réveillez-vous, par exemple, Bruno Robineau?
Ah oui, enfin moi, disons que...
Vous levez à quelle heure?
Ah, moi, toujours vers 6h.
6h du matin?
Oui, 6h du matin, oui.
Et alors, un beau jour, vous êtes réveillé comme ça en disant, ben voilà, quand je serai grand, je ferai le tour du monde, je vais apprendre l'espéranto, je vais me faire plein d'amis espérantistes, j'irai à la rencontre des paysans de la planète. Bon, j'imagine que c'est bien plus complexe que ça.
Oui, c'est plus complexe et plus long, mais disons tout simplement, en fait, lorsque j'avais 11 ans, il est venu des étrangers dans mon village, ils n'ont pas toujours été bien accueillis. Disons, moi, ma sensibilité d'enfant, je me suis dit, curieusement, les adultes nous enseignent l'accueil des étrangers, mais dans la réalité, je sentais, ou je percevais plutôt, qu'on n'était pas chaleureux avec ces nouveaux arrivants. Qui, entre autres, intéressant, puisque ce soir, eh bien, c'était des Portugais.
Ah.
Bref, alors, moi, je me suis dit comme ça, eh bien, curieusement, je voulais savoir, en fait, qui étaient ces gens chez eux. Et puis, parfois, je demandais aux adultes, au fond, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent ressentir par rapport à nous, quoi. Mm. Et là, on me disait, pourquoi tu poses autant de questions?
Et on vous traitait même, comme vous disiez, de sale utopiste,
De rêveur, quoi. Alors,
c'est un gros mot, quand même, quoi.
Oui, ben oui. Enfin, moi, on m'a toujours dit que j'étais un rêveur, un utopiste et puis un idéaliste.
Ça fait beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup.
Fils de paysan.
Parce que je suis paysan, en fait. Mes parents, je suis d'une famille de 6 enfants et ce 5e enfant, eh bien, il était très différent des autres. Et puis à l'école, eh bien, on sent aussi sa différence quand on ne sait pas pourquoi, puisque c'est ainsi. Il y a un moment où on a sa conscience qui est plus éveillée que peut-être les autres autour de soi. On ne sait pas, j'en sais rien. Je sais seulement que je me suis senti très très différent dès cet âge de entre 10 et 11 ans. Parce que j'avais pris conscience que les autres n'étaient pas forcément bien accueillis. Ça paraît banal de le dire aujourd'hui parce que ça s'est passé. Il faut se remonter dans le contexte. Hein, pratiquement en 65... Hein,
et le jour où
quand on est dans une campagne, il n'y a absolument aucun étranger qui vient.
Alors le jour où vous avez décidé de, je pars de la ferme, je m'en vais voir ailleurs si je n'y suis pas.
Voilà, alors en fait, moi, on a fait connaissance en fait avec Marie-Vonne et puis...
Votre épouse.
Voilà, et je lui ai parlé très rapidement tout de suite, en fait, que pour moi, le voyage était un but de ma vie. Quelque part, je suis un quêteur de sagesse. Parce que aller voir comment vivent les autres, essayer de sentir leur manière d'être présent au monde, mais à travers un travail qui a été qu'on a décidé de travailler, d'échanger notre travail pour avoir la nourriture et le logement.
C'est un système de troc, en fait.
Voilà, totalement. J'ai pas un euro de sponsor, hein. Je revendique le fait de voyager avec pas un euro de sponsor, mais j'échange mon travail pour avoir la nourriture et le logement. Et... également en termes de couple, eh bien on a plusieurs arcs à notre, on a plusieurs cordes à notre arc et donc on a à la fois travaillé en agriculture, mais entre autres Marie-Vonne à plusieurs reprises et moi-même d'ailleurs on a enseigné l'espéranto. On ne gagnait pas d'argent, mais on nous donnait une maison et puis un lieu pour dormir et puis là.
Du donnant-donnant, quoi.
Voilà, enfin, un échange véritable. Par exemple, je me suis occupé en fait d'un groupe d'espérantistes à Toyota, au Japon, où tous les deux, en fait, avec Marie-Vonne, eh bien, on donnait des cours d'espéranto de conversation à ces Japonais. Et puis, On était, en fait, je suis resté comme ça, en fait, chez un top ingénieur de chez Toyota, quoi.
Mais alors, attendez, c'était avant Internet, hein, dans les années 60-70.
Ah non, non, ça, c'est quand j'ai pensé à l'idée, attention.
D'accord, hein. Parce que comment vous les dénichez, les espérantistes, ah, comment... au Japon, en Israël, en Afrique, il y a un réseau d'entraide, tout est via le web?
Non, non, absolument pas. Disons, quand on est espérantiste, en fait, on a ce qu'on appelle un Jahr Libro, un annuaire qui paraît tous les ans à Rotterdam. Et cet annuaire recense l'ensemble des délégués de l'Association mondiale d'espéranto. Et chaque délégué qui est dans cet annuaire connaît un peu tous les espérantophones de sa petite région. Et donc, quand on a cet annuaire en poche, ça va tout seul.
Alors, chez les espérantistes au Japon ou ailleurs, la règle, c'est quoi? C'est on ne parle que espéranto?
Ben oui, quand on parle espéranto, oui, c'est la règle.
Et vous avez l'impression, parce que tous les deux, vous êtes bilingue, trilingue, l'anglais, l'allemand, vous avez l'impression de rencontrer davantage les gens, d'être plus dans leur intimité en parlant l'espéranto plutôt que l'anglais, par exemple?
Alors, moi, je n'oppose pas les langues. Les niveaux de langue, je ne les oppose pas non plus, parce que si quelqu'un est plus à l'aise en anglais, eh bien, je passe à l'anglais. Mais quand je suis chez un espérantophone, eh bien, je préfère bien évidemment parler en espéranto avec lui. Oui, je n'oppose pas les langues. Pour moi,
question.
Oui, on a souvent parlé quand même un mot très intéressant, qui est celui de langue auxiliaire. Hein? Donc, c'est une interlangue. On a dit aussi langue pont.
Langue d'union.
Langue d'union, c'est la langue qui permet de passer là où les autres langues ne passent pas. Moi, j'ai une autre image. Bon, c'est une grande maison, il y a plein de portes, et on a plein de clés. Et puis, c'est bien plus facile d'avoir un passe-partout, quoi.
Ou un trousseau.
Ouais.
Mais l'un comme l'autre, parce que vous avez aussi pas mal voyagé en Inde, Christian. Est-ce que vous avez été voyageur avant d'être espérantiste, ou les deux se sont faits en même temps, finalement?
Moi, j'ai été voyageur avant. Et ma démarche espérantiste, elle est venue différemment, puisque Bruno a expliqué que lui, il avait appris en cours de route pour mieux se débrouiller, et il en a fait l'expérience. Moi, je suis venu différemment. J'essayais de construire des relations interscolaires entre l'Inde et la France, voire avec un projet plus général. Et je rêvais ça. Ça me semblait important pour construire des liens d'amitié, pour dire d'essayer d'endiguer un petit peu finalement tout le désordre ambiant. C'était une idée normale et qui était acceptable par tout le monde. Et là, la barrière de la langue s'est érigée d'une façon indubitable, quoi.
Mais le fait de parler la même langue fait qu'on se comprend mieux.
Mais de toute façon, à la base, il y a quand même un point de vue pratique. Si on ne parle pas, ou alors on fait de la télépathie, mais si on se parle pas, on se comprend pas.
Oui, mais qui dit langue, même si on a la même langue, on n'a pas forcément la même culture, on n'a pas forcément la même façon de penser.
Non, c'est exact. Il n'y a pas d'adéquation entre langue et culture, mais il y a d'abord quand même un problème pratique à résoudre. Et dans nos sociétés, au quotidien, que ça soit ici dans une radio pour régler le projet, ou que ça soit à l'échelle d'une société pour construire ou conduire une nation, il faut de l'information qui passe par des mots, qui passe par des textes, il faut une langue. Et d'ailleurs, toute la problématique, puisque j'essaye de suivre cette démarche à l'échelle de l'Europe, je défends ce projet de langue européenne, que j'appelle même langue fédérale, et je n'ai pas peur du mot, contrairement aux hommes politiques qui refusent d'employer ce mot parce que ça va fâcher tout le monde. Mais c'est une langue fédérale, c'est une eurolangue fédérale, et on en a besoin. Parce que sinon, il n'y aura pas de communication, donc il n'y aura pas de liberté de choix, il n'y aura pas de sens, il n'y aura pas de citoyenneté, et il n'y aura pas de démocratie pour finir. Aujourd'hui, même quand on se parle, on a du mal à se comprendre, mais on a quand même une chance. Sans langue commune, nous n'avons aucune chance. Et le système linguistique actuel ne permet qu'à une certaine élite de communiquer. Mais je dirais en plus, elle ne communique pas, parce que cette élite, elle est au service d'un système et d'une machine, et elle n'a pas de vraie communication citoyenne, quoi.
Ne pas être spectateur du monde, mais acteur du monde, hein, ça revient, Bruno Robineau, dans votre vie et ce tour du monde qui a duré plus de 8 ans, avec femme, 2 enfants adoptés en cours de route.
Le premier a été adopté, donc Vincent a été adopté pendant le tour du monde, donc en Bolivie. Oui, c'est un peu le résultat de l'émerveillement du monde, mais aussi le questionnement par rapport à toutes les injustices qu'il peut y avoir. Puis un jour, en termes de couple, on se dit, mais au fond, où va notre vie? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait finalement de notre vie? On s'émerveille du monde, on rencontre des gens. Et je crois aussi que dans tout couple, il me semble, il y a un moment, il y a un désir d'enfant, puis on se dit, plutôt que d'avoir nos enfants nous-mêmes, eh bien, on va adopter des enfants.
Et, à l'inverse, vous recevez aussi des voyageurs espérantistes chez vous. Vous dites même l'ONU, c'est l'ONU chez nous, quoi.
Ah oui, bien sûr, parce que maintenant, nous, on ne voyage plus. Enfin, on a utilisé, je tiens à le dire, on a utilisé l'espéranto absolument systématiquement dans tous les pays où nous sommes allés. Même si je parle aussi l'anglais et l'espagnol, mais voilà, ça nous a été un plus absolument indéniable. Et maintenant, ben, comme on ne voyage plus, eh bien, on reçoit les espérantistes chez nous parce qu'on est sur des réseaux qui font que la famille Robineau, eh bien, elle est accueillante pour des gens de partout. Alors, on a eu des gens absolument de, je dirais, presque toute l'Europe. Et la semaine prochaine, je vais peut-être avoir en fait une moscovite. Là, on est en train de faire les tractations pour pouvoir avoir son visa.
Mais du coup, là, il travaille les champs avec vous, la ferme. Comment ça se passe là,
c'est alors, moi, je ne suis plus, en fait, je ne suis plus agriculteur officiellement. Enfin, moi, je l'étais, en fait, avant de partir pour le tour du monde. Mais maintenant, je raconte, en fait, cette extraordinaire aventure interculturelle de rencontre des hommes. Je le raconte sur toute la France et la Belgique, autant dans les lycées, les collèges, que les conférences tout public dans... les associations culturelles, quoi.
Bon, allez, moi, ce soir, je suis pour les espérantistes. Il excuse, messieurs, c'était même pas fait exprès de vous faire écouter les Beatles dans la langue dominante. Chanson, oui, mais c'est l'anglais, dites donc.
Si, mais on l'aime, l'anglais. On aime les Américains, on les adore. Ce sont nos frères.
Ce sont nos frères.
Bah, évidemment, ce sont nos frères. D'ailleurs, à ce sujet... il est clair qu'il y a une confusion très grave. C'est ce problème de nationalisme et d'ethnocentrisme. Hein, qui a toujours semé la pagaille au sein des peuples, entre les peuples, au profit de finalement de qui, on peut se le demander. Mais en tout cas, l'espéranto est là pour lutter contre ça. Il n'est pas là pour justement s'afficher contre ceci ou contre cela. Il est fait pour réunir ce qui est divisé. Et il est certain qu'il y a des groupes espéranto aux États-Unis. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le mouvement espéranto anglais est très, très dynamique. Comme d'autres pays du monde. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet.
Ah, mais alors, justement, on parlait de solidarité espérantiste. Je crois, Christian Garino, que le fait que vous vous présentiez au présidentiel là, de 2007 avec Espéranto Liberté, qui n'est pas un parti, mais un mouvement citoyen, on a bien compris que c'était une tribune, que cette candidature n'était pas forcément soutenue par tous les espérantistes.
Non, bah c'est assez difficile parce que les mouvements associatifs en général sont pas forcément portés dans le domaine politique.
Ça fait peur ?
Oui, ça fait peur, c'est fatigant aussi.
C'est du boulot.
Et puis dès qu'on rentre en politique, eh ben on rentre en dispute, enfin on discute on va dire, hein, parce qu'on n'est jamais d'accord sur rien, bon voilà, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, il faut se donner un certain nombre de mal pour y arriver. Non, je crois qu'on a essayé en fait de faire avancer les choses de façon associative. En particulier, on avait lancé la pétition en faveur de l'option facultative au bac. Quand vous imaginez qu'il y a 30 langues en option facultative au bac, aussi bien des langues régionales que des langues nationales, à travers des accords francophones, etc.
L'option espéranto au bac ?
Non, elle n'existe pas. Ils ne l'ont jamais cédé.
Sous prétexte que...
sous des prétextes fallacieux, très honnêtement. L'argent, qui n'en est pas un, puisqu'on a créé d'autres options au fur et à mesure parce qu'elles étaient opportunistes ou électoralistes. Sous des prétextes que l'espéranto n'a pas de culture, mais ça, c'est un gag. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on explique la relation entre langue et culture, parce que c'est comme si c'était évident, mais ça ne l'est vraiment pas du tout. Donc, en fait, non, c'est un faux-semblant. Nous voulons réinventer une nouvelle culture, oui, c'est certain. Le problème de la langue ne pose pas problème en elle-même. La langue espéranto fonctionne parfaitement. Et en plus, comme je dis et je répète, elle ne menace pas les autres langues. Au contraire, elle va les servir. Elle va les servir dans les apprentissages. Parce qu'on ne peut bien apprendre une langue, y compris la sienne propre, que si on comprend les mécanismes. Or, même pour le français, aller faire comprendre à un gamin la grammaire du français, même à un adulte, c'est rédhibitoire quasiment. Par contre, l'espéranto, c'est un jeu d'enfant. Donc l'espéranto va permettre de se familiariser, d'entrer dans ce qu'on appelle la propédeutique. Donc l'univers des langues va être considérablement favorisé par l'apprentissage de l'espéranto. En plus, on ouvre culturellement, puisque en l'espace de quelques semaines, ou quelques mois tout au plus, les ados, ou ceux qui vont apprendre, on parle de l'école bien sûr, ils vont pouvoir entrer dans une communication réelle. Et aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de la vidéo et tout, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de bouger parce que ça coûte trop cher et que ça reste encore trop problématique. Mais on va être universellement relié. Pas simplement je communique avec un petit anglais ou avec un petit allemand ou avec un petit italien. Je communique avec le monde entier et je ne communique pas en bilatéral, je communique en multilatéral. C'est une véritable révolution culturelle, de fait. Pourquoi cela refuse-t-on ?
Pourquoi
sous prétexte que toutes les langues sont égales, sauf qu'il y en a de plus égales que d'autres, comme disait Coluche.
Et certaines hein. Et certaines qui rapportent...
Voilà, donc bon, c'est pas très honnête. Et je dirais que ça soit opportuniste sur le plan économique, bon d'accord, mais c'est pas honnête parce que ça prive les citoyens d'un outil fondamental dont ils ont besoin pour grandir dans leur société et pour communiquer et pour faire vivre cette démocratie dont l'Europe manque actuelle. Elle n'a pas sa maturité parce qu'elle n'a pas d'identité. Elle n'aura pas d'identité tant qu'elle n'a pas de langue commune. Chacun garde sa langue, c'est le sens du mot fédéral, puisque je rappelle à chacun que le mot fédéral, au départ, veut dire alliance ou traité. Donc effectivement, on fait un traité. Chacun garde à son chez-soi, mais on a une commune, comme on a une commune de village, le mot est resté. Donc ce sens-là, cet esprit-là, il est parfaitement dans l'apprentissage de la langue espéranto à l'école.
Vous n'avez jamais été déçu ni l'un ni l'autre par un espérantiste ?
Ah, pour moi, si.
Il y a des cons chez les espérantistes.
Ça dépend.
Aussi.
Bah, évidemment.
Heureusement,
oui, on est quand même normal. Bien sûr.
Non, mais parce qu'il y a quand même ces valeurs communes d'humanisme, de partage, de rencontres, au-delà des nations, traits d'union.
Bien sûr, mais on a toutes sortes de rencontres. Enfin, moi, j'ai rencontré entre autres quelqu'un de assez atypique quand même. C'était en Chine, quelqu'un qui était un adepte en fait du maoïsme, mais pur et dur, et on parlait en espéranto. Bon, eh bien, c'est comme ça, la nature humaine et la nature humaine. Mais on va dire quand même ce qui fait peut-être l'essence des espérantistes un petit peu dans le monde entier, c'est une culture humaniste, tout simplement. Mais
Et humaniste, ce sont des mots comme utopiste qui se perdent, qui
non,
font peur.
Non,
qui
très, sont... très honnêtement, je pense que la jeunesse continue à avoir les mêmes rêves, les mêmes espoirs. Mais simplement, bon, bah, les choses évoluent. Il y a les conflits des générations qui sont là pour brouiller un peu les cartes.
Un problème de mots aussi.
Ouais, certainement. De ressenti, parce qu'on ne vit pas les mêmes choses. Mais ce qui fait le fond de la psychologie et du sentiment humain reste identique. Et les esprits grandissent, tant bien que mal.
Mais en tant que prof, instit, prof d'histoire géo,
ouais.
Les gamins, quand vous leur avez dit, bah tiens, je vais vous apprendre l'espéranto, ou si on faisait un petit exercice, ils vous ont pas dit, non, mais attendez, monsieur, c'est ringard, c'est une langue morte,
alors
quoi ça sert.
Ce genre de réflexion, on l'aura plus avec les gens plus âgés qui croient savoir sans savoir. Non, avec les ados, il n'y a pas ce problème, ils sont curieux. Et s'ils voient qu'on est sérieux sur ce qu'on leur présente, ils vont être sérieux aussi. Le gros problème quand on leur présente l'espéranto, c'est qu'ils en redemandent. Et là, par contre, l'institution n'autorise pas, en dehors des activités parallèles qui sont souvent très complexes à organiser, et quand bien même, parce que malgré tout, l'espéranto est vécu comme une sorte de menace. Il faut d'abord faire de l'anglais, n'est-ce pas ? Donc, et puis c'est pas relayé, c'est politiquement incorrect, soyons sérieux. Donc il va falloir revoir cette copie, puisqu'on reste dans le registre de l'éducation, c'est certain, et repenser la problématique de la communication. D'ailleurs, la politique européenne, c'est quoi ? Tout le monde doit parler au moins deux langues en plus de sa langue, toutes les langues sont égales, et ils ne le font pas. C'est caduc. Donc, qu'ils le reconnaissent. Il y a eu des rapports là-dessus. Il y a de plus en plus, même de scientifiques, d'universitaires qui montent au créneau.
Je voterai pour vous. Si vous avez toutes vos signatures, je voterai
pour
vous.
Merci. Il va falloir d'abord m'aider à avoir mes signatures.
Oui, c'est clair. À mon avis, vous en avez trois là pour l'instant déjà.
Que les auditeurs fassent un petit effort aussi.
Alors, les auditeurs, parlons-en. Il y a des utopies chez les auditeurs, peut-être même, je ne sais pas, des espérantistes. En tout cas, vous pouvez, vous aussi, si vous avez, je ne sais pas, une idée bien précise d'un monde meilleur ou un simple rêve, on a un répondeur. C'est le 01 42 20 40 40. Vous tapez 3, alors là c'est très important, vous attendez au moins 20 secondes que la messagerie se déclenche et vous vous retrouverez dans Utopie Cabrac.
Laissez votre utopie après le bip.
Avez-vous remarqué ? Au moment même où bon nombre d'entre nous sautons dans des avions surchargés de touristes déjà épuisés avant de décoller, qu'adviendra-t-il de l'utopique téléportation ? Que fait la science de nos rêves de gosses ? La téléportation restera-t-elle une utopie à jamais ? Ou pouvons-nous encore rêver de voyager dans l'instantané ? Allez, bonne soirée.
Oui, bonjour, c'est Josué Danger. Eh bien, moi, je rêverais d'avoir un monde où les vêtements de marque n'existent plus. On serait tous habillés de la même manière. Je serais curieux de voir les changements que ça pourrait apporter. Merci, à très bientôt.
Allez, c'est mercredi et moi, comme je suis un gars très courageux, je rêve de cocotiers, de jackpot, de la fortune qui tomberait de l'arbre des possibles, si possible. Les 6 bons numéros plus le complémentaire, mais il paraît que ça existe déjà et que ça s'appelle l'autopie. Ils auraient pu prévenir.
Une utopie bien concrète pour le match de ce soir. Vive à les Bleus et Zizou, il va marquer. Zizou, il va marquer.
Oui, bon, ça va, il nous reste encore 4 minutes. Vous avez entendu, chers utopistes, espérantistes, Christian Garino et Bruno Rubino. Tiens, le fait effectivement d'être habillés tous pareils, parler tous la même langue, alors, tous la même monnaie.
Non, non. Bon, alors justement, il y a une confusion qu'il ne faut pas faire. On est passé à la monnaie unique. Il s'agit d'une langue commune pour nous, l'espéranto. Et de fait, ça sera peut-être la vraie solution pour défendre les héritages culturels qui sont un vrai patrimoine, comme il y a un patrimoine génétique, il y a un patrimoine linguistique, parce qu'on ne pèse pas le poids de l'héritage historique qu'il y a dans le langage. Et donc, il faut le conserver. Et l'espéranto, facilitant les échanges, permettrait de mieux garder les langues nationales, les langues minoritaires, les langues régionales. Alors que la politique actuelle qui laisse libre champ au tout anglais est invasif. Et en plus ne produit pas, je dirais, une acculturation qui soit très construite, puisque les gens baragouinent plus qu'ils ne parlent véritablement et ne maîtrisent la langue anglaise, il faut être honnête. Et à commencer par la prononciation, c'est un élément qu'il faut tenir en compte, parce qu'aller parler avec un Chinois, un Japonais ou avec certaines autres nationalités, c'est très très difficile. Et l'espéranto a aussi cet avantage d'être un langage clair, phonétique.
Donc, et dans le ton, il y a un ton qui peut... On peut s'énerver en espéranto.
Ouais, alors le ton, de toute façon, sera le ton des sentiments.
Énerve,
hein.
Je ne m'énerve pas facilement.
Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt d'un tempérament calme.
Il me faut des raisons pour m'énerver, mais bien évidemment, en espéranto, on peut exprimer absolument toutes les nuances du cœur de la poésie.
Tout l'argot est là.
Tout l'argumentation.
Ah, il y a même de l'argot.
Donc, non, la langue est absolument expressive pour pouvoir suivre, pour pouvoir exprimer tout ce que ressent un homme ou une femme. C'est tout.
Comment
la langue est là.
Comment on dit « je t'aime » en espéranto?
Domia Masvin.
C'est pas mal. Mm-hmm. Et le mot de la fin, le proverbe espérantiste pour boucler cette émission, ça serait quoi?
Ni sonjo ke ni successos aniatselo.
C'est-à-dire?
On rêve de réussir à atteindre notre but, qui est entre autres d'offrir cette langue aux Européens dans un premier temps, puisqu'il faut une stratégie, il faut une étape, construire cette unité européenne. Et ensuite, nul doute que les Brésiliens, les Chinois, les Japonais et bientôt les Américains nous rallieront très vite.
Vous pourrez faire un bon président, hein. Il est bien rodé en politique quand même. Hein. Vous voterez pour lui, Bruno.
Et ouais, attention, je délègue le travail.
Ah oui, bien sûr, comme les autres. Et pour vous, le mot de la fin en espéranto?
Donc, mi désiras que ciu facte pour vous lerni esperanton kiel duan lingvon por ciu. Je souhaite à tous qu'on apprenne en fait l'espéranto en tant que deuxième langue.
Très bien.
Kaini dankas tre sincere France
ouais,
Inter.
Sauf que vous savez quoi, oui.
On remercie vraiment sincèrement merci. France Inter de cette invitation.
Sauf qu'il y a la planète foot qui arrive, figurez-vous. Bon, allez, toutes les informations sur les espérantistes, sur notre site à nous du Topic Abrac et votre livre notamment 8 ans autour du monde. Voilà, j'arrive de Marie-Vonne et Bruno Rubino chez Opéra Édition. Merci à toute l'équipe des Utopiens, Marco Mutel à la réalisation, Manuel Calma de Méline, Aurore Merchin La Fontaine, Amandine Casadamon, Jean-Michel Montu pour la programmation musicale. À technique, c'était Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Vous allez pouvoir bien sûr suivre le match sur les grandes ondes de France Inter. Bon courage à toi, Sophie Loubert, pour Parking de